Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h45, juste avant de retrouver Arlette Chabot, Elisabeth Lévy, Eric Revel et vos appels au 0826-300-300 pour traiter de l'actualité. On fait un point sur la revue de presse avec Benjamin Glaise.
Oui, Benjamin, alors ce mot « coupable » qui s'affiche en gros caractère dans la dépêche du midi, de quoi s'agit-il ?
Comme le verdict en l'occurrence prononcé hier à Paris dans le scandale du Mediator, les laboratoires Servier condamnés en effet pour tromperie aggravée, homicide involontaire, le groupe pharmaceutique qui devra s'acquitter d'une amende de 2,7 millions d'euros. La décision est tombée après 517 heures de procès, un délibéré qui laisse néanmoins un goût amer pour les victimes de la région héraultaise réunies au tribunal de Montpellier hier, des victimes encore marquées aujourd'hui et qui témoignent donc dans la dépêche du midi ce matin alors qu'un appel est toujours possible.
Oui, c'est
ça. Jean-Christophe Coubrisse.
Voilà, l'avocat qui a porté cette affaire, avocat de plus de 2600 victimes. Et il sera avec nous tout à l'heure à 9h avant de recevoir Jean Glavany tout à l'heure à 9h15. La une de l'actualité aussi, Benjamin, c'est le Covid encore et toujours.
Ouais.
Avec cette question qui est posée à Emmanuel Macron dans Libération par exemple. Mais il attend quoi ?
Oui, c'est la question effectivement à la une de Libé. Hôpitaux submergés, classes qui ferment, vaccination poussive. Emmanuel Macron n'entend faire aucun mea culpa, mais la violence de la troisième vague place l'Île-de-France en tout cas au bord de la catastrophe selon Libération. Et cité notamment le livre de Bruno Le Maire dans lequel le ministre de l'économie racontait qu'il n'avait jamais vu le chef de l'État à l'heure, ce qui vaut à Libé ce commentaire. Les Français non plus d'ailleurs ne l'ont jamais vu à l'heure avec en tout cas des décisions à contre-temps. Emmanuel Macron semble avoir du mal à clore le pari perdu du non-reconfinement. D'après un conseiller de l'Élysée, dans ce contexte, la fermeture des écoles pousse aux portes de Matignon, affirme Libération, même si dans les couloirs des ministères, il se murmure qu'il faut encore tenir 15 jours.
Bon, écoutez, sur ce sujet, si vous voulez réagir, il y avait Françoise qui était avec nous tout à l'heure à 7h40. Vous n'hésitez pas à vous appeler 0826-300-300. Est-ce que vous estimez qu'on en parle trop, que Emmanuel Macron est en retard, qu'il faut agir d'une manière ou d'une autre, ou alors au contraire, il faut laisser les choses en l'état, n'hésitez pas, vous nous appelez 0826-300-300. C'est d'ailleurs la question qu'on retrouve aussi à la une de Nice ce matin.
La question des écoles, seront-elles bientôt vides puisque depuis hier, en effet, chaque classe se retrouve fermée dès le premier cas de Covid détecté pour de plus en plus d'écoliers. C'est donc le retour de l'école à la maison, l'école face au virus. C'est également la une de La Montagne qui fait le bilan des classes qui ont dû fermer depuis hier.
Oui, et puis si le Covid freine les cours à l'école, il booste nos marchés.
C'est à la une du Populaire du Centre ce matin. Durant les confinements, en pleine crise sanitaire, des communes, par exemple de Haute-Vienne, ont créé ou bien ressuscité leur marché alimentaire, symbole d'un retour des Français vers l'alimentation de qualité locale. Et puis on termine avec un coup de chapeau à Laetitia Vincent. Son nom vous dit sûrement rien, mais elle fait la une ce matin du bien public. Pourquoi ? Parce qu'elle est récemment devenue la première femme en France à diriger une compagnie de CRS.
Ah oui, exact.
Ouais. En l'occurrence, la CRS 40, basée à Pomblères-lès-Dijon, en Côte d'Or. Elle a 39 ans.
Voilà, 39 ans en plus, oui. Merci à vous, Benjamin Glaise. On poursuit la revue de presse avec Éric Belli, un journaliste à la République des Pyrénées qui est avec nous. Bonjour Éric.
Bonjour.
Plusieurs affaires, plusieurs histoires en une de la République, et notamment, vous avez mis un coup de projecteur sur un parcours de deux jeunes migrants, un parcours exemplaire.
Oui, en fait, ce sont deux belles histoires, deux belles histoires de réussite, alors qu'au départ, c'était pas gagné. Ce sont deux jeunes qui sont arrivés en 2016, de 19 et 20 ans aujourd'hui, qui sont arrivés en 2016 de Guinée-Conakry.
Ouais.
L'un par avion avec sa sœur, grâce à un passeur, à Paris, qui les a laissés devant la porte d'une structure qui s'occupe de mineurs et qui a pris leur passeport et leur argent. Et l'autre qui a suivi la route malheureusement commune parfois de migrants en utilisant des passeurs, en allant en bus et en voiture au Mali, en Algérie, puis au Maroc, en prenant un bateau avec un passeur en Espagne, en arrivant en France en passant par Hendaye et puis Bordeaux. Ils s'en sont sortis grâce à une association bordelaise qui s'occupe de l'intégration de jeunes migrants, qui les a scolarisés. Et alors l'un d'eux a été scolarisé s'est inscrit en bac pro mécanique et s'est complètement révélé, si bien qu'il a intégré un bac technologique et que maintenant il est en classe prépa à Saint-Cricapeau pour devenir ingénieur. L'autre, lui, a aussi passé un bac pro et vient d'être d'être embauché dans une entreprise de chimie à Bordeaux. Donc voilà, on a voulu mettre un petit peu dans cet océan, je dirais, de stress et d'actualité Covid. On a vu un petit peu raconter de belles histoires pour donner des nouvelles positives.
Ouais, pour montrer que parfois, quand on voulait, on pouvait, quoi. Ce qui n'est pas toujours le cas, quoi. Il y a aussi les suites de l'affaire Elisa Pilarski, hein, parce qu'elle est originaire, évidemment, du Béarn.
Oui, bon, c'est une moins belle histoire. Hein,
ouais, c'est drame.
Ouais, c'est un drame, une tragédie. La jeune femme qui était enceinte, qui est originaire de Rébénac, est morte dans l'Aisne, très probablement selon les expertises, des morsures de son chien Curtis. Alors, au mois de mars, son compagnon Christophe Ellul avait été mis en examen pour homicide involontaire. Le chien Curtis étant désigné comme l'auteur des morsures mortelles. Il y a une confrontation hier à Soissons entre la famille d'Elisa et Christophe Ellul. Le fait majeur, c'est que... alors, on sait qu'Elisa, à 13h19, avait envoyé un appel de détresse. Et Christophe Ellul, à 13h45, a envoyé un SMS qui, bon, en dit beaucoup, entre guillemets, je le fais piquer. L'enquête se poursuit.
Ouais, l'enquête se poursuit. On va suivre ça, évidemment, sur cette affaire dramatique. Merci, Éric Belli, journaliste à la République des Pyrénées, d'avoir été avec nous ce matin en direct dans le petit déjeuner de l'actualité sur Sud Radio.
Et on poursuit le petit déjeuner de l'actu avec Arlette Chabot, Elisabeth Lévy, Éric Revel et vos appels, vos témoignages 0826-300-300 pour rebondir sur l'actualité.
Oui, alors on l'entendait avec Benjamin Glaise là, tout à l'heure dans cette revue de presse. On a l'impression, Éric Revel, Arlette Chabot, Elisabeth Lévy, que Emmanuel Macron est un peu pris au piège et piégé peut-être aussi par lui-même. Hein. Éric Revel, commençons par vous, tiens, ce matin.
Oui, je pense que c'est bien résumé. Souvenez-vous que le 29 janvier dernier, Emmanuel Macron annonçait fièrement hein, qu'il ne reconfinerait pas. Je pense qu'il est dans un double piège. Il est dans un piège face aux Français, c'est-à-dire comment tenir sa parole sans se renier ni attaquer son ego présidentiel. On va le voir dans les jours qui viennent. Et puis il est dans un autre piège aussi face aux scientifiques, me semble-t-il, qui lui rendent bien la monnaie de sa pièce. Je m'explique. Les scientifiques visiblement l'ont alerté. Hein, on les a entendus sur les plateaux, en radio, sur Sud Radio lui dire attention, la troisième vague monte, ça va être terrible, on va être submergé. Le président de la République a voulu suivre un autre chemin, faire différemment d'ailleurs des autres pays. Et aujourd'hui, le piège scientifique se referme sur lui. Et je dirais que les scientifiques lui rendent bien la monnaie de sa pièce parce que vous avez sans doute noté que dans le débat sur le report ou pas des élections régionales, les scientifiques lui renvoient la patate chaude et renvoient à l'exécutif la patate chaude en disant, cher monsieur le président, mesdames, messieurs de l'exécutif, à vous de décider. Ouais. Puisque vous ne nous avez pas écouté, prenez vos responsabilités sur la tenue du scrutin pour les régionales. Voilà, donc double piège à mon sens, dans lequel Emmanuel Macron...
C'est vrai, Arlette Chabot, Elisabeth Lévy. Arlette, c'est vrai qu'il est un peu pris à ce piège, Emmanuel Macron.
Il a pris une décision que tout le monde a saluée le 29 janvier. Et tout le monde a dit, il est courageux, il prend son risque, pourquoi céder, il faut tenir, gagner
ça,
du temps.
Le 29 janvier, oui.
Ça, c'est le 29 janvier. Bon, voilà, aujourd'hui, on voit bien que ce qu'annonçait quand même le Conseil scientifique au mois de janvier avant la décision du président, c'est-à-dire un pic au mois de mars, on y est dans ce pic. Alors, est-ce que le président veut absolument tenir au risque de paraître quand même extrêmement entêté, ou bien est-ce qu'il va bouger? Et en plus, moi, je refuse ce débat. On n'est pas obligé d'être confiné ou pas confiné. Alors, il recherche une troisième voie. Je veux dire, on peut quand même essayer de trouver d'autres mesures. Ce qu'il faut, c'est quand même, effectivement, trouver des mesures efficaces, compréhensible par les Français, parce que jusqu'à présent, on ne peut pas dire que la com soit très claire, compréhensible et qui ait des effets. Parce que sinon, on nous dit de tenir encore 15 jours, dit le président de la République. 15 jours, quoi, la vaccination 60% des Français ne seront pas vaccinés dans les 15 jours. Donc tout ça n'a pas de sens. Donc il ne faut pas que ce choix politique finisse effectivement par passer pour de l'entêtement. Et puis il y a un truc insupportable, c'est que toutes les semaines on nous dit c'est la semaine décisive.
Oui, non, mais ça,
on
c'est
attend
vrai.
Les choix.
Non, mais
du
on y participe nous
lundi,
aussi les médias,
mardi,
bien sûr.
Mercredi, ouais. Mais parce que ça engage la vie des gens.
Oui, oui, non, mais c'est vrai. Moi, je comprends les auditeurs
si les
qui sont.
Vont à l'école, ouais, ou vont pas ouais. à l'école. Ouais. Si on peut circuler ou pas ouais. circuler. S'il faut rester chez soi travailler ouais. ou pas. Mmh. Donc il y a un moment où cette espèce de suspense hebdomadaire devient insupportable.
Oui, Elisabeth Lévy.
Oui, là, sur ce dernier point, je suis tout à fait d'accord.
Attendez,
pardon, mais...
Elisabeth, et pardon. Puis ensuite Eric, oui, oui. Elisabeth, oui.
Sur ce dernier point, je suis tout à fait d'accord avec Arlette, mais je suis aussi d'accord avec vous, Patrick. Mmh. On y participe beaucoup, hein. C'est nous qui commentons des décisions qui ne sont pas encore prises. Enfin, on a fait ça 150 ouais, ouais. fois. Donc ça, je trouve que là, il y a une espèce de coproduction. Mais pour le coup, moi, je vous trouve, enfin, surtout Eric, un peu injuste, parce qu'en fait, Emmanuel Macron n'a pas dit... Il a dit, je ne reconfinerai pas, sauf vraiment le dos au mur, hein. Il a pas dit je ne reconfinerai jamais, il a dit tant qu'on peut tenir je ne reconfinerai pas, c'est ce qu'il a fait. Je pense que l'idée que une semaine de gagner, bah, c'était aussi des dépressions, des suicides, des entreprises, etc., etc., qui en moins, si vous voulez, des entreprises qui ferment en moins. Donc ça, je pense que c'est très facile de dire maintenant, on vous l'avait dit, il fallait fermer, mais une fois de plus, ça ne tient compte que d'une chose, du Covid. Si vous voulez, donc oui, il a fait un choix. Après, il a décidé d'une stratégie. On peut la contester, mais je ne trouve pas que ce choix est remis en cause aujourd'hui. Alors là, vous avez raison. Il faudrait pas, si vous voulez, la décision de ce qu'il doit faire maintenant peut pas être dictée simplement par de quoi j'aurais l'air, en quelque sorte.
Oui, Eric, vous vouliez ajouter.
Ça, c'est tout
Eric,
à fait vrai.
Eric, vous vouliez ajouter
oui,
quelque chose.
Juste ouais. ajouter un point sur l'efficacité du confinement hybride qui est mis en place dans 19 plus 3 départements, dont les Alpes-Maritimes.
Moi aussi,
où
je voudrais ajouter un truc.
En fait, je vous signale que les taux d'incidence remontent. Hein. Nous, dans les Alpes-Maritimes, on a le couvre-feu depuis avant tout le monde. On a le confinement hybride depuis plus de deux semaines. Et là, on se rend compte depuis le début de cette semaine, c'est-à-dire depuis hier, que le taux d'incidence est en train de remonter. Donc, sauf situation particulière, ça veut dire que l'efficacité de ce confinement qui n'en est pas un n'est pas prouvée. C'est même pire que ça. C'est-à-dire que le taux d'incidence remonte. Donc, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit que le coup d'après, c'est un confinement plus strict,
ouais.
modèle mars 2020, vous voyez ? Et là, quand même, si au bout d'un an, on en arrive au point de départ, on pourra quand même, Elisabeth, se poser quelques questions sur la stratégie française, quand même.
Alors, juste une chose, mais ouais. c'est pour ça que je voudrais ajouter une chose, c'est que il me semble que la seule chose qui pourrait sortir Emmanuel Macron de la nasse, en fait, c'est un gros coup sur les vaccins. C'est-à-dire, moi, franchement, je serais à l'Élysée. La seule chose que je ferais, c'est d'essayer de négocier direct avec Johnson & Johnson ou je ne sais trop quoi, de sortir, si vous voulez, de ce carcan européen qui nous prend du temps, qui nous prend et de dire, de revenir plein couvert de gloire et triomphant en disant, ben voilà.
Il y a même Estrosi Yanis qui dit, je vais acheter du Spoutnik si ça continue, quoi.
Non mais je rapporte 10 millions de doses, non mais je ne sais pas quel est le moyen, je ne sais pas quel vaccin là-dessus, mais si vous voulez, il me semble, je ne sais pas, Netanyahou il est parvenu pour oui, les Israéliens.
C'est plus petit, c'est plus
non,
petit.
Mais, d'accord, non mais il est parvenu à les acheter, écoutez, non ça c'est, je pense qu'aujourd'hui c'est ça l'affaire, c'est l'affaire, c'est si on a des doses, effectivement on peut vacciner jour et nuit et accélérer grandement, tout le monde, c'est pas, on n'a pas, il ne me semble pas qu'aujourd'hui ce qui nous bloque c'est la logistique.
C'est la logistique et puis
non
puis d'avoir des doses,
bloque,
d'avoir
des doses,
d'avoir
voilà.
des doses, d'avoir des doses, parce qu'on va avoir grosso modo, hein, Elisabeth, on va avoir à peu près 10 millions de doses là, etc. Si vous faites le compte pour Israël, c'est combien ? C'est 10 millions de doses. Voilà, donc c'est un peu la
ce
même
que
chose.
Je vous
mais
dis,
sauf
c'est
qu'on
que
a une population
le président
plus grande,
pourrait parfaitement essayer lui aussi d'appeler des patrons de laboratoires de par le monde. On est la France, ça n'est pas on n'est pas n'importe quel pays non plus. Je suis sûr, si vous voulez, qu'il y a des moyens. Quand on est la France et quand on a notre force de frappe diplomatique,
si
de faire quelque chose.
Ouais. Je trouve l'idée intéressante, sauf que là,
un peu tard.
Et moi je m'en plaindrait pas forcément, mais là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on fait exploser l'Europe, là.
Ouais,
c'est-à-dire que le fameux couple franco-allemand, la fameuse Europe fédérale qu'on nous vend à tort ou à raison depuis des années, mais là, si la France marche là-dedans, la France, c'est pas la Hongrie dans la
construction européenne. On marque une pause. Non, bah attendez, Elisabeth, c'est moi, l'arbitre, il est quasiment 9h. Hein, donc, à un moment donné, on marque une petite pause et puis vous reprendrez, évidemment, tout à l'heure. S'il n'y a pas d'arbitre, s'il n'y a plus de règles,
c'est
l'anarchie.
Ça va plus. Non, mais sans déconner.
Non, mais je plaisante, bien sûr. Mais évidemment, mais nous avons beaucoup d'autres invités et on vous reprend dans un instant.
Et vous ne bougez pas parce que dans quelques minutes, Jean-Christophe Coubris sera avec nous, l'avocat de l'affaire Mediator. On en parlera avec nos éditorialistes. Pourquoi pas, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
C'est la suite du petit déjeuner de l'actu. On va revenir sur le tribunal judiciaire de Paris qui a rendu son jugement dans l'affaire du Mediator avec maître Jean-Christophe Coubris qui est avec nous. Merci d'être avec nous. Juste avant, vos appels 0826 300 300 avec Chantal. Bonjour Chantal.
Bonjour Chantal.
Bonjour, je vous téléphone de Perpignan où il fait beaucoup de brouillard.
Il y a beaucoup de brouillard. C'est vrai, mais il va faire beau aujourd'hui, un peu partout sur toute la France. Faut en profiter hein, jusqu'en milieu de semaine. Ça va se dégrader un tout petit peu après, même s'il y aura encore du soleil. Donc il y a beaucoup de sujets évidemment sur la table. On va voir avec Jean-Christophe Coubris dans un instant si, parce que c'est mitigé les réactions après la condamnation des laboratoires Servier. Alors évidemment d'une affaire médicale à une autre, hein, puisqu'on est beaucoup dans le Covid en fait aujourd'hui. On recherche en fait des solutions, on fait appel au laboratoire justement que l'on met en cause dans certaines histoires en disant il faudrait davantage de vaccins. On entendait Elisabeth dans un instant qui est toujours avec nous. Vous, quelle est votre position, Chantal ? Qu'est-ce qui vous fait réagir ce matin ?
Moi, il y a plusieurs choses qui me font réagir.
Oui.
D'abord, il y a eu ce pourquoi j'avais appelé.
Oui.
C'est pas hors sujet, mais on est dans le sujet.
Oui.
C'est la façon dont on fait voir dans les médias comment on traite les enfants.
Mmh.
On vous dit sans filtre ni rien, sans code parental, comme je dirais vite fait.
Mmh.
Ce sont eux qui sont porteurs de la maladie, ils vont contaminer. Moi, j'ai autour de moi des enfants qui croient qu'ils vont nous contaminer.
Oui.
Et qui sont déjà culpabilisés. Mmh. C'est déjà des gamins en formation.
Oui.
Ils ont 11 ans.
Oui.
Donc, ils sont déjà dans une culpabilité de pouvoir porter la mort. Vous imaginez un peu.
Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais.
Et ça, j'ai l'impression que personne ne l'a relevé. Ces enfants, ils portent le masque toute la journée. Ils sont dans des conditions insupportables. Ils n'ont pas assez d'oxygène dans le cerveau. C'est vraiment très compliqué pour eux. Et ils obéissent. Nous, on ne le ferait pas. Ça, je tiens à vous le dire. Ensuite, pour le Mediator, moi, j'en ai eu prime, mais je ne savais pas pourquoi on me le donnait. À l'époque, j'étais assez niaiseuse là-dessus. Je suis passée à travers. Par contre, je suis tombée en plein, moi, dans le scandale du Levothyrox. J'en ai encore les séquelles qui ne sont pas aussi graves que celles du Mediator. Mais j'avoue que les laboratoires, depuis quelque temps, sont un petit peu les rois du monde. Et que les médecins, hélas, le Mediator, je crois que c'est une petite goutte d'eau, ce que je veux dire. Hein. Mais c'est quand même le Mediator, c'est quand même le médecin qui a prescrit le Mediator. Après, bon, c'est devenu ce que c'est devenu. Hein. Mais je me souviens encore, quand on allait voir un médecin, dans la salle d'attente, vous aviez 4 à 5 personnes qui venaient présenter des médicaments, les fameux nouveaux médicaments que l'on ne connaissait pas du tout. On faisait confiance en le médecin et on se faisait avoir. Donc c'est vrai qu'avec tous les vaccins qu'il y a maintenant, on a énormément de doutes, peut-être des gens de mon âge, 67 ans, qui ont ce recul de se dire est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon. On a déjà des pathologies, plus ou moins. On a pris des doses de à peu près n'importe quoi, c'est le cas de le dire. Hein. Mais j'avoue que pour moi, le Johnson, j'espère que ça va être génial.
Ouais.
J'ai 67 ans.
Ouais.
Hier, ça a été le parcours du combattant, et ça va l'être encore aujourd'hui, pour pouvoir me faire tester.
À tester.
Ah oui.
Je suis tombée sur une plateforme qui m'a renvoyé en Bulgarie.
Attendez, tester en PCR.
En PCR, oui.
Sur la langue, parce que comme j'ai une déviation nasale, je ne peux pas le faire dans le nez. Et
salivaire.
De toute façon, la pharmacie m'a dit ne vend plus de coton pour faire ça. Et il y a des centres ici, mais quand je téléphone au centre, le centre a dit mais c'est pas nous. On n'arrête pas de nous envoyer des gens comme vous, alors qu'on n'y est pour rien, nous.
Ouais.
Et c'est très compliqué. choquée. Moi, c'est juste le labial qu'il me faut, c'est tout.
Ouais. Non, mais c'est difficile. Restez avec nous, Chantal. C'est intéressant, votre réflexion, notamment aussi vis-à-vis des laboratoires. Alors, Jean-Christophe Cobrice, donc hier, il y a eu cette condamnation. 2,5 millions et 2,7 millions d'amendes, c'est ça. 180 millions de dommages et intérêts aux victimes. Et puis de la prison avec sursis. Alors, certains, comme certaines victimes, comme notamment Irène Frachon aussi, qui a mené un peu ce combat, disent que les sanctions sont dérisoires. On vous avait reçu la semaine dernière pour votre livre, hein, qu'on cite au passage.
Au nom de toutes les victimes chez Flammarion.
Oui, qui est passionnant, bien sûr. Quel est votre sentiment ? Vous êtes mitigé aussi ou satisfait ?
J'entends les propos du docteur Irène Frachon et également, de toute façon, de la part de nos victimes, une certaine déception. Mais je crois qu'il faut tout de même apprécier la situation en l'état. C'est la première fois, je dis bien que c'est la première fois en France, que lorsqu'il y a eu un scandale sanitaire, on a abouti à une conclusion satisfaisante avec une condamnation. Dans la plupart des cas, il n'y avait que de la relaxe. Le système judiciaire français était ainsi fait, et c'est vrai. C'est vrai que certains puissants, comme les laboratoires, étaient réellement protégés.
Oui.
On n'était pas rempli d'espoir il y a 10 ans, quand on a commencé ce combat contre les laboratoires Servier. Loin de là, le docteur Irène Frachon nous a beaucoup aidés. Je pense que sans elle, il n'y aurait pas eu de procès Mediator. Oui. Mais pour autant, aujourd'hui, on a cette condamnation. Alors oui, il n'y a pas de prison ferme. Oui, il n'y a pas de fermeture du laboratoire. Mais il y a des condamnations financière, comme vous l'avez rappelé, uniquement sur le préjudice moral des victimes, il faut bien le noter, non pas sur les séquelles, ça fera partie de notre combat, d'autres indemnisations, qui au final s'avèrent être des montants nettement au-dessus de ce qui est alloué habituellement. Et je pense que le tribunal a parfaitement compris ce qui pouvait être un vrai message à l'intention des laboratoires, c'est de les faire condamner financièrement. Ouais. Aujourd'hui, le médiateur leur avait rapporté à peu près 500 millions de chiffres d'affaires. Demain, ils auront probablement plus d'1 milliard à verser en indemnisation, toute indemnisation confondue. Et ça, c'est un vrai message. Et je pense que c'est un message important pour restaurer cette confiance qu'il nous faut avec les laboratoires qui, heureusement, font de très bons médicaments bien souvent.
Ben oui, c'est ça, parce que hier, Irène Frachon a utilisé, par exemple, le terme de pharmaco-délinquant. Alors, quand on voit ça, et comme le disait Chantal, c'est-à-dire qu'on va dans des cabinets de médecins, il y a beaucoup de commerciaux qui viennent vendre des médicaments, etc. S'il n'y a plus de confiance et qu'on utilise en fait ces termes dans cette affaire peut-être, mais...
Le problème des termes, c'est le terme médicament pour le Mediator.
Ouais,
parce que c'était pas un médicament.
Ouais,
c'était un coupe-faim. Il était présenté comme un antidiabétique. En fait, il ne l'était avec aucun effet positif. Il n'avait que des risques et aucun bénéfice. Et il faut pas, en effet, tout mélanger.
Oui, c'est ça.
Le médicament, le vaccin, par exemple, qui peut-être aura des effets secondaires extrêmement rares, temporaires, etc. Lui, il a un bénéfice considérable. Le Mediator n'avait strictement aucun bénéfice. Et pour autant, il est resté 33 ans sur le marché. Et M. Servier avait du génie. Il avait une capacité à commercialiser ses produits de façon absolument incroyable. Il fut un des premiers en France à le faire. Et c'est pour cela qu'il a eu un succès incroyable. C'est tout de même le deuxième laboratoire français. Et il a su convaincre tous ses prescripteurs. Chantal nous le rappelait, les médecins qui prescrivent. Mais oui, mais... Ils étaient complètement conditionnés par les laboratoires, conditionnés
par les visiteurs. Ils faisaient confiance,
Et on faisait confiance, probablement trop. Aujourd'hui, on ne fait plus assez.
Ouais.
Et j'espère que ce genre de décision, qui pour moi est une décision historique, va justement permettre de restaurer cette confiance qui nous est indispensable.
Ouais. Est-ce que ça veut dire que certains laboratoires, naturellement, vont réviser la mise en circulation de certains médicaments suite à ça ?
Alors, très sincèrement, vous avez donc le Mediator qui a créé ce séisme, vous avez le dispositif est sûr, vous avez l'Androcur, vous avez la Dépakine. Ça en fait tout de même des scandales à venir, parce que nous sommes loin d'en avoir terminé avec certains laboratoires. Donc bien évidemment qu'aujourd'hui, je ne peux pas croire qu'il serait assez fou furieux de ne pas prendre en considération ces signes forts qui leur sont envoyés, et qu'ils feront bien plus attention à notre santé. Ce qui est absolument incroyable, parce que ça devrait être une évidence. Mais finalement, non, ça ne l'était pas. On s'en rend compte à travers ce procès Mediator. L'Agence du médicament aussi a été condamnée.
Mm-hmm.
C'est pas rien. Mm. C'est une première, cela aussi. Vous êtes un dispositif pour nous sécuriser. Il y a eu dysfonctionnement. On vous sanctionne. Tout ça, pour moi, sont des messages extrêmement positifs, pas forcément toujours bien compris aujourd'hui par toutes nos victimes, qui portent en elles des séquelles terribles, qui malheureusement ont une maladie évolutive. Je comprends leur souffrance, mais je crois qu'il faut tout de même se satisfaire de cette décision historique.
Oui, dans votre livre, qui va au-delà du médiator, hein, au nom de toutes les victimes, où il y a beaucoup d'affaires dans le milieu médical, vous nous l'expliquez très clairement, il y a eu à un moment donné des questions taboues, qu'on n'évoquait pas. Aujourd'hui, on est allé quand même vers davantage de transparence et ce monde médical est ouvert et est prêt à ouvrir les laboratoires, ouvrir les hôpitaux pour montrer ce que l'on fait et comment on soigne, comment on traite, comment on intervient.
Oui, c'est une chose extrêmement positive que d'avoir autant de transparence. Après, il y a des effets un peu extrêmes, c'est-à-dire que hier, on ne faisait strictement rien. Aujourd'hui, l'AstraZeneca a un moindre signe qui pose une difficulté.
On va trop loin,
et
sens.
On suspend tout. Alors, c'est sûrement pas moi qui vais vous dire qu'on va trop loin. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'est jamais trop dans la mesure, finalement. Et on est un peu dans la réaction immédiate, ce qui est parfois un peu dommage. Mais c'est pas simple. Je conçois que c'est pas simple. Pour autant, la transparence, c'est ce qui me paraît indispensable. Je suis vraiment content que des scientifiques aient pris la parole pour nous dire qu'il y allait avoir des effets secondaires sur les vaccins d'aujourd'hui contre la Covid, mais que le bénéfice était plus important. Ça n'existait pas comme discours. Et il me semble que c'est un vrai progrès. Et cet échange-là devrait permettre à certaines situations scandaleuses comme celle du médiator de ne plus jamais revoir le jour, parce que c'est quand même la volonté de toutes nos victimes.
Mais comment rassurer les médecins, du coup ?
Bah, les médecins, ils n'ont qu'à s'intéresser un tout petit peu plus à leur formation, sortir d'une formation guidée par les laboratoires et prendre un peu plus d'indépendance. Donc les rassurer, j'aimerais juste que... Et heureusement, un grand nombre font convenablement leur travail.
Ouais.
Mais c'est cette histoire de formation des médecins. Si vous êtes formé par ceux qui vous vendent des médicaments, je ne suis pas tout à fait certain de leur objectivité.
Oui. Chantal est toujours avec nous. Chantal, vous avez entendu l'avocat, maître Jean-Christophe Cobris. Quelle est votre réaction, justement, par rapport à ce monde médical que vous évoquiez, tout à l'heure.
Oui, parce que, hélas, mon état de santé n'a pas toujours été florissant. Et il est vrai qu'il y a certains temps, donc je vous dis, il y a peu de temps, 30 ans, c'est rien du tout dans une vie, c'est un battement de cils. Il est vrai qu'on faisait confiance à notre médecin. Donc on n'allait pas au-delà d'aller chercher un laboratoire, d'aller gratter. Maintenant, il est vrai que systématiquement, on va regarder ce qui est dans la boîte, on va regarder les effets secondaires, on va en parler à notre médecin quand on les ressent. Mais encore faut-il encore qu'il vous écoute. Parce que bien des fois, moi je vous dis, je vais faire pour l'affaire de Livotirox, on nous a pris quand même pour des propadingues. On était des milliers. C'est quand même affolant. Et il est vrai que pour le médiator, moi quand je l'ai eu pris, je ne savais pas du tout pourquoi j'en...
Attendez. Ouais. Ah, ça a coupé. Il y a eu un petit.
Pas du tout censuré par les laboratoires.
Oui, non. Mais bon, c'est vrai que ça passe par de nouveau cette formation, ce que vous disiez, une information plus précise. Mais même les médecins étaient probablement pris aussi au dépourvu de temps en temps, quoi, pour avoir toutes les informations complètes par rapport à un médicament, non ?
Je ne sais pas. Ouais. Alors c'est toujours pareil, le Vidal est leur Bible. Ouais. Seulement le Vidal, il est rédigé par les laboratoires.
Ouais,
finalement, c'est vrai que cette puissance des laboratoires est telle que si on les retrouve à tous les niveaux, je conçois que ce soit difficile pour les médecins de prendre un peu de recul. Il n'y a pas que le Vidal, et puis il paraît qu'il y a Internet aussi, qui apporte pas forcément toujours de bonnes informations.
Bah oui,
mais savoir que le médiator c'était du Benfluorex, c'était pas si difficile que cela.
Ouais,
il suffisait juste de s'y intéresser. Ouais. Alors quand on ne cherche pas, on ne trouve pas.
Arlette, peut-être une réflexion par rapport aussi à Mediator et puis cette confiance dans le milieu médical. Enfin,
c'est ça le mot essentiel, c'est le mot confiance. On voit bien que la défiance, le scepticisme, on en a beaucoup parlé au début de la campagne de vaccination, est liée à toutes ces affaires, tous ces scandales qui ont marqué la France, sans contaminer l'hormone de croissance, évidemment... le médiator. Donc, il faut savoir si ce jugement va ramener un peu la confiance ou pas. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, certains disent qu'il fallait aller plus loin. Et symboliquement, peut-être, fermer le laboratoire Servier ou l'obliger totalement à se transformer, le punir davantage pour qu'on comprenne qu'on ne peut pas mettre sur le marché pendant 33 ans, vous le rappeliez, un médicament qui n'en est pas un et qui, en plus, est nocif.
Oui, alors, il faut savoir qu'ils ont été condamnés à publier le jugement dans un certain nombre de journaux.
Oui, oui, oui.
Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui me sidèrent. Par exemple, le chiffre d'affaires du Mediator, des laboratoires Servier, pardon,
oui, oui,
n'a pas chuté un seul instant durant les 10 dernières années. Au contraire, il n'a cessé d'augmenter. Là, pour le coup, on se demande comment ça fonctionne et comment ils peuvent être à l'abri d'un tel scandale. Alors, c'est vrai qu'ils commercialisent énormément de produits à l'étranger et que je pense que le problème Mediator est un problème franco-français. Cependant, la décision de fermer un laboratoire, la décision de sanctionner avec de l'emprisonnement ferme, aurait pu répondre à une certaine attente, mais nous avions un tribunal et une présidente qui voulaient faire du droit, et essentiellement du droit. Et je pense qu'elle a eu raison, dans le sens où elle a fait un jugement mesuré, et pas un jugement qui se voulait exemplaire, avec malheureusement, s'il était dans l'excès, des défauts et des fragilités qui l'auraient forcément amené à être cassé devant la cour d'appel. Donc c'est aussi une décision réfléchie de la part d'un tribunal qui a donné la place à la victime, qui a indemnisé, je le répète, de façon vraiment significative. Alors, évidemment, par les chiffres, c'est toujours compliqué, mais je peux vous affirmer que c'est 2 à 3 fois au-dessus des sommes qu'on obtient habituellement pour ce genre de préjudice. Donc là, il y a
on n'est pas encore aux États-Unis, quoi.
J'espère qu'on n'y sera jamais,
ouais.
Très sincèrement. Mais vous ne pouvez pas comparer, en effet. Là, on parle d'un extrême à l'autre, mais le préjudice moral en droit français, il est mal indemnisé, il faut le savoir. Là, il y a eu un effort significatif. Ça a un sens, parce que ça coûte pour les caisses des labos, et ça peut avoir une répercussion. La fermeture, elle aurait forcément été salué par tout le monde aujourd'hui, jamais appliqué parce que la cour d'appel aurait retoqué la décision du tribunal. Donc c'est toutes ces difficultés qu'il fallait prendre en considération pour en arriver à un résultat de 2000 pages, parce que le jugement fait tout de même 2000 pages, qui moi me paraît somme toute équilibré.
Allez, merci en tout cas Jean-Christophe Cobris, avocat, donc auteur du livre Au nom de toutes les victimes aux éditions Flammarion. C'est un très bon livre, effectivement, d'enquête avec beaucoup d'histoires. L'une des premières qui a démarré près de chez vous, à côté de Bordeaux, du côté de ce nom, je le rappelle. C'est à lire, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements par rapport à ce que l'on vit aussi aujourd'hui. Dans un instant, on change, merci Arlette Chabot, Elisabeth Lévy, Eric Revel et Chantal qui étaient avec nous. On change de registre.
C'est toujours une crise, on est toujours dans une crise, mais la crise en Méditerranée. Jean Glavani revient avec nous dans un instant. On parlera de la Libye, des migrants, de la Corse, de la laïcité, de cette crise, bien entendu, au travers.
Et puis en même temps, on va voyager, parce que à travers ce livre, évidemment, qui aborde, parce qu'il y a plein de métaphores. Oui, il y a plein de métaphores qui abordent les chapitres actuels aussi de l'actualité, mais qui nous font voyager sur un beau bateau. Ouais. C'est bien, ça fait du bien de prendre un peu l'air.
Ça fait un peu d'histoire aussi. Restez avec nous, on en parle dans un instant. Il est 9h22.